Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Flashback loves Coppola.
I'm asking you, just do what you think is right in your hearts.
À l'occasion du Festival Lumière 2019,
what is this? Another glorious battle for the kingdom?
Stéphane Moïsakis, Julien Dupuis et Rafik Djoumi rendent hommage à Francis Ford Coppola.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Sur We Love Cinéma.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback Loves Coppola de We Love Cinéma à l'occasion de la 11e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis accompagné de mes camarades Rafik Djoumi. Bonjour Rafik.
Bonjour.
Et Julien Dupuis. Bonjour Julien.
Bonjour Stéphane.
Pour cette quatrième et dernière partie de notre podcast consacré à la carrière de Francis Ford Coppola, nous allons revenir sur l'aventure d'American Zoétrope et les rêves de conquête de Francis Ford Coppola qui a toujours cherché à s'immiscer dans le système hollywoodien pour le remplacer en profondeur. Alors, Rafik, quelle est la genèse de ce studio indépendant? Et qu'est-ce qu'on peut dire qu'il possède des allures d'entreprise familiale, en fait?
D'une certaine façon, oui. C'est donc Coppola s'est créé une personnalité de conquérant, en fait. Ça a été un gamin un peu isolé, tout ça. À travers son statut de cinéaste, il découvre que les gens le suivent, l'écoutent, qui donnent des ordres et qu'ils sont acceptés, etc. Et donc, il a très vite un sentiment de la possibilité que rien ne lui est interdit, en fait, qu'il peut conquérir le monde. Et l'idée, donc, d'American Zoétrope, elle va naître, effectivement, dans un contexte, entre guillemets, familial, puisque c'est sur le tournage des Gens de la Pluie, où Coppola réalise qu'il a créé une bande, en fait, et des gens qui sont prêts à suivre très loin.
Nous en parlions dans le premier épisode.
On en parlait dans le premier épisode, voilà. Et donc, il a découvert ça, et aussi, la possibilité avec le matériel moderne, en tout cas moderne de l'époque, de concevoir les films autrement. Or, le Hollywood dans les années 60, Hollywood est une forteresse qui est en train de s'écrouler de vieillesse. Tout le monde sent que quelque chose va la remplacer et Coppola veut être ce quelque chose. Donc il va, en fait, pendant la tournée européenne pour présenter Les Gens de la Pluie en Europe, il va découvrir au Danemark un studio qui s'appelle Lanterna Films et qui est équipé de bandes montage et de mixage que Keller et Steinbeck, qui sont beaucoup plus souples et modernes que les Moviola à l'ancienne qu'on emploie encore à Hollywood. Et de passage à un salon à Cologne en Allemagne, il décide de dépenser $80,000, ce qui est une somme délirante pour l'époque. Il décide de dépenser $80,000 de matériel pour le faire directement aller aux États-Unis sur un coup de tête en disant c'est bon, je lance Zoétrope. Il dit de cette époque-là, je me disais que je vendrais ma maison de campagne et ma voiture si nécessaire, mais en fait j'avais déjà dépensé 4 fois plus que ça. Donc il est super endetté, mais il a son matos. Et donc il n'en restait plus à ce moment-là qu'à trouver des locaux et surtout à trouver un partenariat. Alors les locaux ils vont les installer à San Francisco parce qu'il y a aussi l'idée du symbole, c'est que Hollywood ne sera plus à Los Angeles, ça sera à San Francisco. Et donc le partenariat ça va se faire sur un énorme coup de poker, puisque donc le studio Warner à l'époque, comme tous les autres studios, est en pleine restructuration et tous les anciens sont partis. Et il y a une nouvelle génération de financiers quoi qui arrive, qui déboule parce que les studios ont été vendus à des grosses compagnies, généralement des compagnies minières ou des trucs comme ça.
Qui n'ont rien à voir avec le cinéma,
qui savent pas du tout comment ça se gère et qui envoient en gros un peu au casse-pipe des jeunes qui ont été formés dans des écoles commerciales en disant allez nous faire des films quoi. Les mecs ils arrivent, ils savent rien de ce qui se passe. Et donc chez Warner, un des producteurs de John Calais, lorsqu'il déboule, lorsqu'il prend ses fonctions, il tombe sur un télégramme donc d'un certain Francis Ford Coppola qui lui dit « J'espère que les changements dans votre hiérarchie ne remettent pas en cause les contrats que nous avions, vous et moi, quoi, sur tous les films. » Et John Calais, il sait pas de quoi il s'agit. En fait, il n'y a jamais eu de contrat. Coppola est complètement en train de le bluffer, mais le type, finalement, se dit « Bon, bah apparemment, on s'est engagé auprès de ces gens-là, donc faisons ce deal. » Et c'est comme ça donc qu'il a son contrat de $300,000 avec la Warner. Donc pour leur proposer plusieurs longs métrages qui seront tous réalisés par des jeunes cinéastes. Donc on le rappelle, à l'époque, Easy Rider vient de sortir sur les écrans. Le film a coûté à peu près le prix d'un paquet de tartelettes Diego, et c'est le carton de l'année. Ce qui est, enfin, faut imaginer le traumatisme dans un Hollywood qui était habitué à ne faire des cartons qu'avec des films qui coûtaient extrêmement cher. Et donc les vieux d'Hollywood se disent, il y a que les jeunes qui comprennent quel film il faut faire. Donc d'une certaine façon, on les laisse faire complètement. Et Coppola va profiter bien sûr de cette vague-là. Le Coppola a toujours eu une énorme admiration pour son jeune protégé qui est George Lucas, qui faisait des courts-métrages très expérimentaux à l'USC, et donc dont ce court-métrage qui s'appelait THX 113EB, j'oublie toujours les lettres qui a la suite, et décide de transformer ce court-métrage très expérimental en long métrage donc de SF, et ça va donner un film voilà, si vous connaissez pas, voilà, vous tapez THX 138 sur Google et sur Google Images et vous comprenez tout de suite à quoi vous avez affaire. Ça n'est pas Star Wars. Et donc film très autorisant, très politique, très voilà machin. Le George Lucas de l'époque en fait. Et comment dire, ils ont un rendez-vous avec la Warner pour pouvoir voir ce film-là et discuter aussi des autres projets de Zoétrope, dont le fameux Apocalypse Now que Milius est en train d'écrire à l'époque.
Et dont nous avons parlé dans le précédent épisode.
Coppola n'a pas du tout pu suivre en fait le projet THX parce qu'il était justement dans le montage de sa société et c'était un vrai cauchemar quoi, juridique. Donc en fait, la vérité c'est qu'il va découvrir le film quasiment en même temps que les gens de la Warner, mais alors qu'il leur a survendu. Pour faire les choses bien, il veut mettre tous les scripts qui ont été écrits dans une belle boîte, donc il fait faire une belle boîte dans un beau bois bien verni en fait. Et c'est un de ses collègues qui fait remarquer, mais mon Dieu, on dirait un cercueil en fait. La boîte qu'ils envoient à la Warner, effectivement, ça va être un cercueil, parce que lorsque THX 138 va être présenté à la Warner, à la fin du film, tout le monde va se retourner et John Calais va partir en disant mais qu'est-ce que c'est que ce merdier. Je me serais éventuellement attendu à Easy Rider 2, mais là aucun d'entre vous n'a su ce qu'ils étaient en train de faire avec cet objet. Donc bref, c'est la cata absolue. Et donc non seulement le THX 138, ils en veulent pas en l'état. Il faut réparer le film, mais en plus les projets suivants, vous pouvez les mettre bien profond, quoi. Donc à peine Zoétrope lancé, c'est déjà le cataclysme. Et Warner, va lui faire sentir bien fort les $300,000 qu'ils ont avancé et qu'il n'a plus, hein, bien sûr. Il doit aussi de l'argent à Roger Corman par ailleurs. Dans un autre épisode, on parlait du parrain et de l'endettement de Coppola. Ça vient de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il va fuir ses créances. La moitié du temps, en fait, quand quelqu'un frappe ou sonne à sa porte, c'est pas lui qui va répondre. Il est caché au cas où il doit sortir par la fenêtre et disparaître dans la nature. Donc Zoétrope commence mal, on va dire. Mais évidemment, le succès ahurissant et totalement inattendu du parrain va lui permettre de relancer ses rêves-là. Mais il va pas être le seul à suivre ce rêve. Lucas, qui était dans la hiérarchie en fait un des gestionnaires de
Zoétrope,
lui aussi va se dire il y a peut-être effectivement quelque chose à faire dans cet ordre-là. Et Lucas, quand il va tourner American Graffiti, il va créer uniquement sur le papier. Bon, au départ, c'est rien du tout, hein, une petite boîte qui s'appelle Lucasfilm. Mm-hmm. Et donc on verra ce que ça deviendra par la suite.
Mais tu dirais que c'est la version réussie d'American Zoétrope, entre guillemets,
d'une certaine façon, tout ce que Lucas a entrepris avec Lucasfilm, c'était en fait dans la continuité de ce que Coppola voulait faire, parce que Coppola voulait vraiment tout revoir avec avec Zoétrope. Il s'agissait de faire les films d'une nouvelle façon, donc de la façon la plus libre possible, quand on allait faire des films comme Les gens de la pluie, directement sur la route, etc., avec les vrais gens, etc. Lucas, à cette époque-là, il rêvait de pouvoir s'acheter une camionnette dans laquelle il y aurait un studio de montage, etc. Il reprenait un petit peu, ils étaient un peu dans, comment dire, dans le rêve qu'avaient eu certains cinéastes soviétiques juste après la Révolution, où il y avait eu cet énorme train qui traversait le pays avec des bandes de montage, et il tournait des scènes qui montaient le soir même dans ce train, en fait. Donc c'était un peu dans cet esprit-là qu'ils espéraient révolutionner le cinéma, et ils voyaient bien que le matériel évoluait et qu'avec lui évoluerait la façon même de faire les films, en fait. Donc la technologie n'était pas vue comme quelque chose de barbant au rasoir, c'était quelque chose dont il fallait s'emparer.
Et d'enthousiasmant, voilà.
Galvanisant. Voilà, d'expérimental, mais au sens propre du terme, d'essayer des choses nouvelles. Et Zoétrope va servir à Coppola en partie à tenter ça, en fait, à essayer de capturer tout ce qui est nouveau. Et l'arrivée de la vidéo à la fin des années 70, il va être un des premiers à vouloir vraiment s'approprier ce nouvel outil et trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec de nouveau.
Alors justement, parmi les films, alors on a parlé de Apocalypse Now dans un précédent épisode, qui est quand même un gros titre, en fait, pour American Zoétrope. C'est quoi les films qui peuvent définir, en fait, ce rêve fou qu'avait Coppola? Moi, je pense notamment à son film d'après, qui est Coup de cœur, qui est une comédie musicale totalement expérimentale, sur laquelle justement il a expérimenté ce que tu disais là, ce procédé de retour vidéo qui lui permettait de repenser le film, qui était aussi un petit film à la base.
En fait, déjà, il était allé voir le tournage de Ladiesman de Jerry Lewis au début des années 60, Coppola. Et Jerry Lewis expérimentait en fait déjà ce type de
le tombeur de ces dames.
Le tombeur de ces dames en français, exactement. Qui est un de ses films les plus ambitieux, hein, techniquement, vraiment. Jerry Lewis, hein, qui est un film assez incroyable. Et Jerry Lewis, déjà, il testait en fait ce type de choses. Alors, c'était pas vraiment encore de la vidéo, c'était pas exactement les outils dont va bénéficier Coppola par la suite dans les années 80, mais ça a planté déjà cette petite graine, en fait, dans son esprit. Je pense qu'il faut quand même le citer, parce que c'est pas anodin, et c'est une chose qui est quand même très très importante. Et ensuite, lui, à l'époque de Coup de cœur, bah lui, il appelle ça l'électronique cinéma. Alors c'est un peu un terme un peu finalement, c'est un peu fourre-tout, c'est pas forcément toujours très évident de voir ce qu'il entend par là. C'est-à-dire, est-ce qu'il parle déjà de montage numérique, en fait, ce qui va devenir plus tard la vie avec le montage numérique tel qu'on a connu. En fait, le vrai truc à l'époque, et surtout pour Coup de cœur, et puis ensuite pour Rusty James et puis Outsider, c'est en gros de faire ce qu'on a appelé plus tard des animatiques, c'est-à-dire
de la prévisualisation,
c'est-à-dire de filmer les comédiens, ou alors des doublures pour les futurs comédiens, mais devant un fond bleu d'incrustation, et ensuite d'incruster les comédiens sur un dessin qui est censé représenter le futur décor, et de faire un prémontage, en fait, de tout ça. On revient sur quelque chose dont on a déjà parlé sur les précédents podcasts, qui est cette façon nouvelle d'écrire un film, en fait, cette dénégation de l'outil scénario, c'est-à-dire comment tu peux te débarrasser de tout le côté écrit et finalement littéraire du cinéma pour directement te plonger dans l'objet film. Alors là où ça va pas prendre tout à fait, c'est que déjà il est très en avance sur son temps, mine de rien, Coppola, quand il fait ça. À l'époque, personne ne fait ce type de choses. Et puis l'autre truc, c'est que lui, il le présente ça d'une part pour améliorer, être encore plus ambitieux visuellement, mais aussi pour tenir ses budgets et ses plannings de tournage. Et ça
c'est raté.
Ça, Coppola, pour le coup, il sait pas faire. De toute façon, tu peux préparer le film tel que tant que
parce
tu
que
veux.
Voilà, il faut préciser que c'est un film très particulier.
C'est un film très particulier, puisque c'est une tentative de mélanger deux genres a priori antinomiques, on va dire, qui sont le film naturaliste à la John Cassavetes, avec la comédie musicale des années, la plus factice, en fait, des années 40. A double sympathy. Oh baby, this one's from the heart. C'est un film donc qui va coûter horriblement cher, avec un visuel.
Ce qui n'était pas prévu à la base.
Ce qui n'était pas prévu à la base,
mais budget.
Bon, il se trouve que ce qu'il envisage à chaque fois qu'il veut mettre justement en scène les rêves de l'héroïne, etc., dans Los Angeles, pas Los Angeles, un Las Vegas plein de néons, etc., fait qu'ils vont construire des millions et des millions de néons.
C'est intéressant de préciser que ces néons,
on va les retrouver dans toute l'histoire du cinéma des années 80, parce qu'en fait, tous les néons qu'il y a dans Blade Runner ou dans La Lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benet, etc., sont tous des néons de Coppola, en fait, de coup de cœur, parce qu'il fallait bien rentabiliser le film d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est un projet dément, et surtout dont le filmage est parfois incroyablement complexe, puisque le plan d'ouverture de coup de cœur, la caméra passe à travers un néon dans lequel il y a le nom de Coppola, pour descendre dans une rue où Terry Garr est dans sa vitrine en train de finir de préparer sa vitrine. La caméra traverse la vitrine pour la suivre dans le magasin où elle finit par se retrouver devant un miroir. Elle se parle à elle-même et là la lumière change et dans le miroir au lieu de voir son reflet à elle, elle voit le reflet de son mec et la caméra focalise sur ce mec qui recule et ce mec en fait était devant son miroir et sort dans son garage qui se trouve près du désert du Nevada en un seul plan à une époque où on n'utilise pas le numérique pour passer d'une scène à l'autre.
Les raccords numériques.
Donc c'est totalement ahurissant comme filmage et ça n'aurait jamais été possible, je pense, sans ces méthodes de prévisualisation vidéo extrêmement complexes pour l'époque qu'il avait mis en place. Quoi. Il savait que c'était faisable.
Il utilisait le Steadicam aussi, qui finalement n'était pas si vieux que ça et qui était un harnais en fait de stabilisation de la caméra. Et ça, il y a des plans incroyables dessus.
Non, mais ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, c'est un tournage en fait qui est complètement différent d'Apocalypse Now. Et malgré ça, en fait, il arrive quand même à rentrer dans un budget quasi similaire. Hein. C'est un film de studio.
C'est-à-dire
fait en studio et ça coûte quand même 25 millions de dollars.
Ce paradoxe de coup de cœur, c'est que c'est un film qui visuellement, on voit que ça a coûté très cher, mais qui thématiquement appartient au cinéma dit pauvre puisqu'on est dans un film hyper intimiste, donc c'est un peu l'erreur, enfin c'est je vais pas dire l'erreur, mais ce que Scorsese avait essayé de faire avec New York en fait et qui déjà s'était planté.
En fait, il y a un truc aussi intéressant à dire sur Coup de cœur, c'est que je pense aussi que tous ces plans séquences, donc ces plans sans coupe, sont des restes en fait du projet initial aussi du film. Faut en parler quoi, parce que c'est pas anodin. C'est-à-dire que initialement, Coppola lui voulait faire une espèce il voulait lier le cinéma avec un art vivant, c'est-à-dire avec le théâtre en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il voulait tourner le film avec 12 caméras et tourner le film d'une traite. Et il espérait de cette façon capter avec la caméra l'énergie, le stress aussi, le trac que les comédiens peuvent ressentir quand ils interprètent une pièce de théâtre ou les chanteurs lyriques peuvent ressentir quand ils interprètent un opéra. Bon, ça s'est pas fait parce qu'il s'est pas entendu avec son directeur de la photo là-dessus. Puis c'était un projet encore plus délirant. Mais c'est aussi intéressant. C'est genre coup de cœur. Il faut jamais oublier ce film-là parce que aujourd'hui où on peut retransmettre beaucoup, enfin on retransmet beaucoup de spectacles vivants aussi. Cinéma, se dire qu'il y a eu ce projet-là au début des années 80 qui a été mis en place et qui pourrait aujourd'hui être tourné en direct, diffusé directement dans plein de salles de cinéma, etc. Je trouve qu'il y a une perspective là à prendre qui donne vraiment beaucoup de poids en fait, au film de Coppola.
Le film est un peu oublié aujourd'hui et en même temps, ça a été le film le plus pompé des années 80 par le vidéoclip et par la publicité, puisque toute l'esthétique pub des années 80 vient de coup de cœur.
Y compris par le cinéma, un film comme La La Land, on en parle.
Tout à fait. Mais ce caractère expérimental, il n'est pas uniquement dans la fabrication des films, il est aussi dans les films qu'on va proposer via ce studio. Et là aussi, c'est particulièrement gonflé. Donc déjà, dès les années 70, il va distribuer des films hyper, d'avant-garde, on va dire. C'est-à-dire littéralement des comédiens filmés devant une toile cirée, quoi. Des trucs comme Ludwig, Requiem for Virgin King ou Hitler, Film from Germany, tout ça, aux Américains. Hein. En 1980, donc voyant que son idole de toujours, Kurosawa, ne trouve plus du tout de financement dans son propre pays, il va décider de sortir son chéquier pour produire Kagemusha, qui est une grosse production quand même, avec son ami George Lucas.
Deux versions différentes d'ailleurs, il y a une version japonaise et une version américaine.
Donc il va y avoir ça, il va participé au financement aussi de Godard avec Sauf qui peut la vie, et il va faire venir d'Allemagne Wim Wenders, qui est un réalisateur très festival, quoi, pour lui faire faire un film à gros budget quand même, qui était le Hamet, une reprise, un film de détective privé avec sa star de coup de cœur dans le rôle principal, qui va être un échec financier
mais
monumental.
Mais comme coup de
cœur,
il faut le préciser, parce que comme on le disait dans l'épisode précédent, Apocalypse Now, ça a été un film très dur à faire, très dur à monter, qui a coûté très cher, mais qui a été un succès et qui dont la carrière continue encore aujourd'hui. Alors que coup de cœur, pour le coup, ça a été un vrai bide au moment de sa sortie.
Et qu'on
peut même pointer du doigt comme vraiment le film qui a enterré, qui a commencé à enterrer vraiment les rêves de Coppola, en fait.
C'est film qui l'enterre, il s'en est jamais remis, en fait, hein, de coup
et
de cœur.
Et c'est la fin, pour moi, c'est la véritable fin du nouvel Hollywood, coup de cœur. Généralement, on parle de la porte du paradis, mais c'est vraiment coup de cœur qui a mis un terme définitif. Et surtout, c'est ironique et terrible que ce soit un film comme ça, One from the Heart, c'est-à-dire littéralement ça vient de mon cœur, je vous donne mon cœur, et en fait en faisant ça je tue tout ce qu'on a représenté durant les années 70.
Alors parmi les autres films en fait qu'il a produit, parce que donc
il y a le Mishima de Paul Schrader qui est un film aussi extrêmement expérimental,
et très théâtral. Voilà.
Et c'est intéressant parce que même si on comme tu l'as bien noté, George Lucas il va créer son vrai zoétrope avec Lucasfilm, parce que bon les gens l'ont oublié aujourd'hui, mais Lucasfilm avait vocation à amener le cinéma de demain. Ça a été évidemment des trucs comme le THX etc. Mais c'est aussi à Lucasfilm qu'on va développer le montage virtuel dès le début des années 80. C'est à Lucasfilm qu'on va développer l'image de synthèse. Avec ce qui deviendra plus tard Pixar. Mm-hmm. Donc Lucas, il va avoir les moyens, lui, de concrétiser les rêves de Coppola. Par contre, tous les films expérimentaux que Lucas s'engageait à faire, parce qu'il voulait lui aussi produire des films expérimentaux, il les a jamais faits. Mm-hmm. Il a peut-être réalisé, en tant que bon gestionnaire, qu'il allait droit dans le mur, là où Coppola sortait son chéquier et donnait de l'argent à des films dont on savait d'avance qu'il n'allait pas faire des milliers et des cents.
Ceci étant dit, il y a quand même des films qui sont restés dans l'histoire du cinéma, même si c'est des films qui ne sont pas donc forcément réalisé par Coppola. Bon, il en a fait quelques-uns avec American Zoetrope, mais je pense notamment en fait aussi à certains documentaires. Il y a Koyaanis Katsi,
les films de Reggio, oui bien sûr,
voilà c'est ça. Donc qui sont
expérimental aussi,
tout à fait, oui. Mais qui sont des documentaires, je crois même que, je ne dis pas de bêtises, il a eu l'Oscar aussi, où il a été nommé en tout cas, mais en tout cas voilà, c'est des documentaires expérimentaux qui traitent fondamentalement de pas mal de thématiques que Coppola a essayé de traiter lui-même en fait
à sa façon, voilà, ouais,
à sa façon dans le parrain, oui. Ou ce genre de choses, mais de manière expérimentale, avec la musique de
William Scott. C'était le seul film à l'époque à être sorti au même moment aux États-Unis et dans le bloc de l'Est en Union soviétique avec le même succès, sauf qu'aux États-Unis on le considérait comme un champ d'amour à tout ce que le capitalisme avait pu amener à la planète Terre, là où en Union soviétique c'était la condamnation la plus évidente du capitalisme en fait. Tout le monde voyait dans le film exactement ce qu'il voulait voir. Mais il y a eu beaucoup d'enfants de Koyaanis Katsi. On a eu plein d'autres films qui ont tenté de reprendre un peu la même structure. Donc c'est un film sans parole où on filme en fait les gens sur Terre à très grande vitesse.
Qu'on appelle un time-lapse.
Voilà,
en fait.
Un time-lapse, voilà. Et à travers ce time-lapse, on commence à comprendre quel genre d'espèce on est en fait.
Bah, pour donner un peu une idée
et
des
une
images.
De Philippe Glass.
Ouais, une musique absolument incroyable qu'on peut entendre. Mais l'idée, c'est que en fait. Cette façon de filmer l'humain, cette façon de filmer en fait les sociétés, cette façon de filmer par exemple l'emploi de l'industrialisation, ce genre de choses, c'est une manière de représenter peut-être des petites fourmis, des choses comme ça. C'est l'impression que ça donne en fait, et c'est en ça aussi que le film finalement est interprétable de plusieurs manières, parce qu'en fait il dit des choses en creux plutôt que de les citer explicitement, quoi. Mais ça fait partie effectivement des films que American Zoetrope a mis en avant.
Et donc, dans les films qu'American Zoetrope a produit, il y a un film coproduit donc par George Lucas qui s'appelle Tucker, qui raconte donc l'histoire de ce créateur de voitures de génie, qui a été complètement, broyé par un consortium fait de tous les grands de l'industrie. Comment ils se sont débrouillés pour s'assurer que ce type ne révolutionne pas l'automobile. L'histoire de Tucker est vraie, bien sûr.
C'est un film réalisé par Coppola.
Et c'est un film réalisé donc par Coppola avec Jeff Bridges dans le rôle de Tucker.
Produit par Lucas, qui estimait que c'est parce que c'est un projet de très longue date. Le père de Coppola, Carmine, je crois qu'il avait une voiture de Tucker, et puis en tout cas, il avait acheté des parts aussi dans sa société. Enfin bon, voilà, il y avait aussi un truc.
Parce que ce fameux Tucker avait effectivement créé une voiture qui était à l'époque complètement révolutionnaire, et il l'avait faite pour l'américain moyen. C'était même pas un modèle qui coûtait cher. Et donc, du coup, quand le film sort, beaucoup de cinéphiles ou même une partie de la critique réalise assez vite que ce film raconte l'histoire de Zoétrope, en fait, et de tous ces combats perdus de Coppola et de ses rêves de conquête de notre imaginaire collectif qui se sont écrasés contre les réalités du business. En fait.
Mais alors, est-ce que Coppola a conscience de ça vraiment quand il le fait? C'est-à-dire que parce que c'est un film qui date de 88, qui a été fait en fait à peu près une vingtaine d'années après les débuts de d'American Zoétrope. Il a vraiment conscience en fait de raconter son histoire.
C'est évident. En plus, un de ses modèles, c'est Monsieur Smith au Sénat, et je pense qu'il y a notamment dans les discours de Jeff Bridges dans le procès qui arrive dans le dernier acte du film. Voilà, il y a des relance ça, et je pense que Coppola, il est déjà très fatigué en fait au moment. C'est un beau film, hein, moi je trouve Tucker, c'est pas son plus grand film, mais c'est un film agréable, quoi, et attachant, c'est un film touchant, et je pense qu'il a conscience que il s'est battu. Il a donné tout ce qu'il avait, bien au-delà de tout ce qu'il avait, et malgré tout, il a perdu parce que le système a été quand même plus fort que lui. C'est aussi le drame, et toute la beauté aussi, hein, de la carrière de Francis Ford Coppola, en fait, de s'être dressé seul face à ce système absolument monumental qui a réussi à se réinventer, à péricliter un peu pendant sa carrière, mais aussi à se réinventer, notamment grâce à lui aussi. C'est ça qui est paradoxal, quoi.
Et alors, American Zoétrope, c'est un studio qui existe toujours. Enfin, c'est un label, une boîte de production qui existe toujours. Il a produit beaucoup de films. Il a produit notamment les films de sa fille, Sophia. À votre avis, quel est le dernier film qu'on pourrait vraiment juger comme héritier de ce que Coppola a vraiment voulu faire dans sa carrière et en fait qui serait représentatif de ça? Parce qu'après il a quand même produit, par exemple, il a fait Dracula, il a produit et réalisé Dracula, il a produit une nouvelle version de Frankenstein par Kenneth Branagh. Tout ça, c'est par le label de Zoétrope. Mais
il a produit un peu quelques films d'horreur, par exemple. C'est un genre auquel on n'associe pas forcément Coppola, même s'il a démarré dans le genre chez Roger Corman. Mais son nom était sur le générique de Sleepy Hollow de Tim Burton, mais aussi sur les deux Jeepers Creepers de Victor Salva, qui sont quand même surtout le premier des films vraiment intéressants. Parmi les derniers, derniers films d'horreur surprenants qu'on ait eu, ça commence à dater. Même si sur Sleepy Hollow, Tim Burton a toujours dit qu'il avait jamais vu Coppola de sa vie, en fait, et que à son avis, le nom de Coppola n'était au générique que parce qu'il avait des comptes, des deals non réglés avec les studios, en fait.
Après, dans ces films des années 90, à Coppola, il y a toujours des restes imposants, en fait, de sa carrière passée. C'est-à-dire que dans son Dracula, par exemple, on retrouve ce côté théâtral, intéressant de son Dracula, c'est que on arrive à une époque où on est en pleine révolution numérique, en fait, de l'image de synthèse. C'est l'époque de Terminator 2, on est juste avant Jurassic Park. Enfin voilà, il y a un truc qui est en train de se passer qui va profondément changer et bouleverser la façon de faire des films. C'est des choses vers lesquelles tend le cinéma de Francis Ford Coppola. Encore une fois, on n'a pas arrêté d'en parler, quoi. Lui, il est vraiment là-dedans. Et pourtant, en fait, avec Dracula, il va y avoir une volonté, en fait, d'en venir à un cinéma des origines extrêmement primitives, en fait, dans sa façon d'être conçu, avec, dans les meilleures séquences du film, d'une part un côté très très russe, notamment dans la scène d'ouverture, quoi, où vraiment tu peux pas t'empêcher de penser à Alexandre Nevsky d'Eisenstein, hein, qui est une des références majeures de Coppola, comme on l'a déjà dit, encore aussi une vraie théâtralité, c'est-à-dire que c'était un film où Coppola voulait que les costumes ressemblent à des décors et que les décors soient plutôt comme des costumes. Alors, c'est une formule qui est un peu étrange, j'ai jamais vraiment totalement comprise, en tout cas en ce qui concerne les décors, mais pour les costumes, il est évident qu'il a travaillé là-dedans. Il y a un côté littéralement opératique, en fait, dans le côté un peu monolithique comme ça de ces personnages.
Alors moi, pour peut-être boucler l'histoire sur American Zoétrope, il y a un dernier projet, en fait, sur lequel Coppola tourne autour depuis des années, qui s'appelle Megalopolis, qui est un grand projet de science-fiction qu'il a apparemment en tête depuis maintenant 30 ans, 40 ans, quoi. Et il en reparle, en fait, régulièrement. Il en a reparlé récemment. Est-ce que vous pensez que ça serait peut-être, s'il arrivait à le concrétiser, le dernier vestige, en fait, de
son empire?
De son empire, ouais.
Ce qui est sûr, c'est que c'est un film d'urbaniste et d'architecte. Mmh. Et ça, c'est des choses aussi dont on n'a pas énormément parlé. On a cité Dinta Vularis, en fait, son chef décorateur. Mais c'est un truc qui est important chez Coppola. Ça, c'est sûr. Il y a une façon d'appréhender l'espace et les volumes, en fait, dans l'espace, qui lui est quand même très très particulière, très spécifique. Quoi. J'ai employé plusieurs fois le terme d'opératique, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui se pose là chez lui. Et je pense que dans un projet comme Megalopolis, il y a de ça. Il y a aussi un côté saga, et puis c'est un genre qu'il n'a vraiment jamais visité, en fait, la science-fiction. Et je pense que
c'est à la fois science-fiction et film choral, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que, mais d'une certaine façon, Le Parrain était déjà après Megalopolis, si on l'avait justement amené à toute une ville. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qu'ils pensent d'une série comme Sur Écoute, par exemple, dont toute l'ambition est en fait de nous mettre en scène une ville d'une saison à l'autre. Et le projet Megalopolis, c'était ça. C'est des tas de gens qui se croisent, qui se connaissent pas forcément, mais qui en fait fonctionnent dans la même intrigue. Quoi. Chaque action de quelqu'un entraîne des conséquences.
Une version narrative de Koyaanis Kethi, quoi.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Voilà, c'était la quatrième et dernière partie de Flashback Loves Coppola, notre podcast consacré à la carrière de Francis Ford Coppola. Vous pouvez retrouver nos précédents podcasts sur la plateforme welovecinema.fr. Julien Rafik, merci à vous et à très bientôt sur We Love Cinema.
Merci.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.